fête du feu et de la terre, salon des artisans même. Ce week-end, du côté de Nègrepelisse, un rassemblement de couteliers, de forgerons, de potiers, de céramistes, de bijoutiers, du travailleur de cuir, de tourneur sur bois, le tout organisé par l'association de la fête du feu et de la terre. On va détailler le programme donc avec le coutelier Thierry Rénal. Bonjour.
Bonjour.
Accompagné d'une artiste céramiste, Adèle Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites tous les deux partie de l'organisation de ce salon qui n'est pas du tout le premier, je dirais troisième, quatrième.
C'est le cinquième. C'est le cinquième cette année, oui.
Avec donc des nouveautés cette année ?
Ben, cette année, Adèle s'est occupée de tout ce qui était céramique. Bon, nous, on a notre, entre guillemets, population de couteliers qui est toujours assidue, quoi. Et puis là, cette année, il y a un peu de neuf avec, avec la terre et le verre. Et donc, Adèle est plus apte à discuter comment de ces histoires-là, quoi.
Parce que, comme d'habitude, on aura des démonstrations de forges, de katanas, d'épées, de couteaux, de création de bas fourneaux et de plein de choses que je ne connais pas. Mais donc, on a une spécialité là, renforcée autour de la terre.
Oui, là, autour des métiers de la terre, on aura une démonstration de raku. Donc, le raku, c'est une technique japonaise qui consiste à... C'est une deuxième... Il y a deux cuissons. Il y a une première cuisson... de la terre à jusqu'à 1200 degrés qui prend pendant 12 heures de montée, 12 heures de descente. Là, vous avez votre pièce qui est cuite. Là, j'espère que je ne vais pas être trop technique. Et donc, et on attaque une deuxième cuisson dans un four bidon ou dans un four qui peut être travaillé de manière artisanale. Enfin,
ouais, c'est fabrication maison.
Où là, par contre, on va faire une montée en cuisson jusqu'à à peu près 1000 degrés, mais en une heure et demie. Une fois que la température est atteinte, là, on ouvre le four et on extrait la pièce qui aura été auparavant émaillée. Donc là, vous allez avoir un premier choc thermique qui va se passer entre le fait que vous allez sortir la pièce du four avec la température extérieure, vous passez de 1000 à 25 degrés. Donc là, l'émail va se figer automatiquement et va se craqueler. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va prendre la pièce, une fois que la pièce est un craquelé, qu'on l'entend chanter, on va la mettre dans des contenants où il va y avoir des journaux, de la paille, ce que vous voulez, qui fait que ça va faire un feu. Une fois que le feu est en combustion, on referme la marmite, hein, ce qui fait que tout le carbone qui va s'échapper va s'emprisonner dans les craquelures qui auraient été faites auparavant par ce choc thermique. Et après, quand on ressort la pièce, alors là, c'est magique parce que vous ne savez pas ce que vous alliez découvrir. Et après, on peut encore faire un deuxième choc thermique avec l'eau.
Et alors, quand on dit démonstration donc, de raku, c'est qu'on regarde une pièce se craqueler parce qu'on la met dans le four et puis en fait, il faut juste revenir une heure plus tard.
Alors, non. En fait, quand on parle de démonstration... là, je ne sais pas comment l'artiste va procéder, mais les pièces seront déjà cuites dans un premier temps. Donc, elle va les mettre dans son four. Comme on prend un bidon, hein, on prend l'exemple du bidon, où là, elle va le monter en une heure. Donc, pendant une heure, on vérifie que la température monte avec un palier, avec des paliers quand même un peu précis. Et une fois que la température est atteinte, là, c'est sûr, au bout d'une heure, là, la démonstration peut vraiment, vraiment commencer. Quand on ouvre le bidon et qu'on va sortir les pièces, là déjà vous allez voir l'émail qui est quand même en fusion, et après la sortie de la pièce, et après c'est tout un enchaînement de...
La pièce est blanche quasiment quand elle sort du feu.
Elle n'est pas blanche en fait, l'émail quand il est en fusion il est un peu rougeoyant si tu veux, c'est orange, c'est rouge, et après comme tu peux utiliser des émaux de différentes couleurs, suivant l'émail que tu auras utilisé, ça sera différent. Là où c'est vraiment magique, c'est quand on va le sortir du contenant ou là où on aura mis le feu. Parce que vraiment, quand l'émail se craquelle, si vous voulez, on n'a pas un réel visuel sur les craquelures. Donc on ne sait pas où est-ce que elles vont s'être installées. C'est pour ça qu'on peut avoir des choses qui sont absolument magnifiques et puis des fois, ça peut être un peu particulier. Hein. Et d'où le nom raku. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le mot raku, en fait, ça voulait dire en japonais le bonheur est dans le hasard. Et c'est vraiment tellement juste, c'est tellement juste, parce qu'une fois qu'après vous allez sortir votre pièce de votre lessiveuse, là vous allez découvrir où étaient vraiment les craquelures. Et vous allez les voir se former, vous allez voir ce carbone qui s'est infiltré, et c'est magique, c'est vraiment magique.
Démonstration de raku donc, mais pas que, vous allez tourner aussi non, de la terre ?
Alors moi je ne vais pas tourner. Mais par contre, nous allons accueillir donc un potier qui va faire une démonstration de tour. Et Et c'est très, très intéressant. On est vraiment dans des métiers qui sont très différents. Et un métier bien à part et un art bien à part qui demande beaucoup de technique, vraiment un savoir-faire.
Tu fais de très belles choses aussi, lui.
Oui.
Mais déjà, de toute façon, le salon est basé quand même sur, à la base, quand même sur un salon de professionnels, quoi. Et donc, alors, je ne dis pas qu'on fait de l'élitisme, loin de là, parce qu'on a des gens plus anciens, on a des jeunes. Le salon est basé sur le travail, quoi. C'est-à-dire qu'après, que vous ayez, un an ou deux ans de bouteille, hein, ou d'en avoir 40 derrière, le jeu n'est pas là. C'est le travail qui est fait, qui fait que vous êtes présent sur le salon, quoi.
On a vraiment essayé cette année d'aller chercher des artistes qui sont à part, quoi.
Ouais.
Qu'ils ont vraiment leurs pattes. Quand vous allez voir leur travail, ça ne ressemble à aucun autre. Et c'est ça qui est fabuleux. Vraiment, M. Martinon, qui fait aussi du raku, mais qui a une technique complètement... qui est différente de Sacha. C'est pareil, son travail, il peut pas être... On peut pas le confondre avec un autre, quoi. C'est vraiment... Je vous encourage vraiment tous à venir pour découvrir tous ces artistes qu'on est allés chercher, parce qu'ils sont quand même extraordinaires.
Il y a les gens qu'il faut le faire aussi, que tu fais.
Oui, il y a M. Martinon qui nous a ramené son ami Verrier qui... alors, j'ai pas pu encore constater vraiment en direct voir son travail, mais de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux, waouh, j'ai hâte, parce que vraiment là ça en jette. Hein.
Ouais, et puis c'est énorme en plus, c'est des grosses pièces.
C'est waouh.
Donc là, c'est ce filet du verre.
Voilà, filet du verre. On a une autre artiste... Gradiela, qui est une dame extraordinaire, qui travaille le pitfire. Alors le pitfire, c'est en fait une technique, c'est du feu de fosse. Alors là, on est dans une seconde cuisson. Votre pièce est déjà au préalablement cuite. Donc, comme je vous ai expliqué, pendant 24 heures, 12 heures de montée, 12 heures de descente. Et ce qu'elle va faire par la suite, c'est qu'en fait, elle creuse un trou dans la terre, assez conséquent quand même, où elle va enfouir ses pièces avec des végétaux différents. Elle va faire des momies avec... elle va remplir plein de végétaux, d'ingrédients qui sont peut-être un petit peu secrets aussi. Hein, on peut pas tout dévoiler. Et après, elle va remplir cette fosse avec du petit bois, du petit bois, du petit bois, du gros bois, jusqu'à avoir des grosses bûches à la fin. Et elle va porter ce feu... jusqu'à, je pense, si je me rappelle bien, c'est jusqu'à 800 degrés pendant un certain nombre d'heures. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi quand vous viendrez. Et voilà, plus le feu durera et plus le résultat sera extraordinaire. Donc ça peut aller jusqu'à 72 heures. Je pense que Gradiela, elle le fait... à peu près 48 heures. Et après, quand vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, tous les végétaux, tout le fait que le feu se soit consumé petit à petit, qui est le feu qui était très, très, très fort, on est des couleurs. Mais en tout cas, cet artiste-là, Gradiela, elle arrive à avoir des couleurs sur ses sphères. Elle fait un peu d'animalier maintenant, que franchement, je n'ai pas vu en France. Vraiment. Vraiment.
Vous avez invité des pointures là pour ces différents domaines. Donc le feu et la terre, oui. On vient de le décrire là dans la céramique en particulier. Ça marche aussi pour le feu, puisque les métaux, vous les extrayez de la terre directement.
Tout vient de la terre.
Ouais.
Tout vient de la terre, oui.
Mais le salon a été posé là-dessus, parce qu'après, nous, on se sert de la terre aussi. Enfin, les mêmes matières, si on peut dire, terre chamottée et compagnie, pour faire les fours, quand on fabrique le métal. Et donc,
c'est quoi chamottée ?
On est sur une...
C'est quoi chamottée ?
Oui.
Chamottée, c'est on prend la terre. Le problème, c'est que souvent, nous, on n'a pas besoin de... Comment dire, contrairement à la poterie, nous, ce qu'on a besoin, c'est la tenue au niveau réfractaire. Et le fait de chamoter la terre donne la puissance des réfractaires. C'est-à-dire, si une terre tient, admettons, 800-900 degrés, on fait une cuisson, on broie la terre, on la remélange avec de la fraîche. Cette espèce de, de granulat qu'on a fait, on le remélange avec la même terre fraîche. Là-dessus, on l'a recuit. Si on peut lui monter, on peut la monter de 100 ou 200 degrés avec une première chamotte. Si on n'en a pas assez, on refait cette cuisson, on la rebrise, on la remet en petites particules, on la remélange avec de la terre, et à chaque fois, comme ça, on arrive à monter, de gagner 200 degrés au niveau calorifique. C'est-à-dire qu'une terre qui tiendrait autour de 1000 degrés, nous, si on a besoin de 1300, avec une, deux, trois chamottes, la terre, elle est capable de tenir à 1300 ou 1400 degrés.
Et alors, à quoi elle sert après cette terre qui est donc
chamottée? Nous, elle sert pour faire les creusets. Eux, il faut les
pots. C'est quoi les creusets? Oh, voilà. Vous me perdez là. C'est quoi les creusets?
Le creuset, c'est le bol, finalement, qui a le four, qui va accueillir le méthane en fusion. Voilà, c'est-à-dire que, grosso modo, au niveau de la réduction, on tourne autour de 1300, 1400 degrés, 1300 degrés, quoi, suivant les... alors, c'est pas de la fonte, on ne fond pas le métal, quoi. On ne fait pas un bol de matière fondue comme ferait l'industrie. C'est-à-dire, c'est des gouttelettes de métal, qu'on voit d'ailleurs... là où c'est qu'elle entre l'air, il y a une stencil qu'on appelle la lunette, il y a un verre qu'on se sert pour souder au chalumeau, là, qu'on met au bout de la lunette, pour voir ce qui se passe à l'intérieur du four dans la buse, et on voit les gouttelettes de métal qui descendent en proportion entre les graines de charbon. On dirait des petits vers qui se promènent partout dans le four et qui viennent s'agglutiner les uns aux autres, quoi. C'est l'oxydoréduction.
Et vous récupérez ce métal-là, donc, pour après forger les pièces sur place.
Après, là-dedans, il faut affiner cette matière, parce qu'il y a des interstices à l'intérieur, il y a des reliquats de laitier, des trucs comme ça. Donc ça, déjà, il faut la faire suer de manière à la rendre homogène d'un côté. Mais en même temps, comme c'est pas coulé ou ça n'a pas été martelé, comme il n'y a pas de fibrage dedans. Donc on est obligé déjà, avant de pouvoir faire ce que nous on appelle les damas, quoi, c'est-à-dire les mélanges de matière, déjà sur la pièce elle-même de la loupe, on est obligé de faire entre 10-12 pliages sur la pièce elle-même. Le truc. Alors donc, maintenant, ça nous sert aussi, suivant les zones où on travaille dans le feu, à recarboner ou décarboner, suivant la puissance de carbone qu'on a besoin dans la pièce.
Alors, le damas, c'est quand on plie la matière comme ça, puis on vient la frapper, et ça fait des petits dessins comme ça dans les couches. Oui, mais
c'est déjà, c'est un terme plus de journaliste que réel, c'est un corroyage. Mais comment dire, c'est pour donner un dessin. C'est-à-dire qu'on va employer deux nuances d'acier différentes.
Et c'est le carbone qui va faire le dessin.
L'affinage carrément de la loupe, ce qui sort du four, on est obligé de faire 12 pliages, 10-12 pliages sur la matière elle-même pour donner le fibrage, l'homogénéité de la nuance dans le morceau de métal. Et après, là-dessus, on va se retrouver avec des pièces de différentes nuances d'acier qu'on va remélanger ensemble. Alors là, par contre, on va faire, entre guillemets, ce qu'on appelle le damas. À qui, par contre, on va donner la forme, on va le torsader, on va le plier, on va y faire des choses, quoi, pour donner le dessin qu'on a envie de donner dans la lame du couteau, quoi.
Alors vous,
mais
sur
là, sur ces matériaux-là, c'est un boulot de cinglé, quoi.
Oui, là, c'est-à-dire que ça prend quand même plus que deux jours pour faire un joli quelque chose.
Ah ben déjà, il faut les chercher les cailloux.
Ouais, voilà.
Parce que là, il faut travailler les cailloux.
Donc,
il faut fondre les cailloux.
Anecropolis, là, vous allez avoir tout ce panel de savoir-faire là que vous venez de décrire, hein, donc faire chauffer.
De toute façon, là, au niveau du fer, il y a Dominique Bargiel qui vient comme chaque année, qui lui va faire un tatara. Bon, l'an dernier, il va faire un grosso modo. On travaille entre 300 et 450 kilos de minerai.
Alors le tatara.
C'est le four japonais. Voilà, c'est le four que se servent les Japonais pour fabriquer le métal, pour faire les sabres. Donc lui, il travaille. Moi, je travaille davantage du côté européen avec des fours beaucoup plus petits. Lui, il travaille avec ça. Enfin, après, c'est deux méthodes différentes, mais enfin, qui font la même chose au bout, quoi. Au niveau de la matière, c'est exactement la même, quoi. Donc là, lui, là, il trace des fours qui sont beaucoup plus ronds. Donc l'an dernier, on avait brûlé 350 kilos de minerai. On a sorti une loupe qui faisait 180 kilos.
Une loupe, c'est-à-dire le métal exploitable.
Le morceau de métal, quoi, ouais. Voilà, qui faisait 180 kilos. C'est la sortie de four, c'est quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et donc ça, il fait ça le samedi. Donc le samedi, on commence à charger le four. Bon, c'est vrai que c'est pas spectaculaire parce qu'on jette du charbon et du minerai dans un four en terre. La sortie du four le soir à 5h, par contre, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on dirait qu'on ouvre un volcan. Et après, le dimanche, je veux dire, il forge, bon, pas avec cette matière-là parce que bon, le cheminement de l'affinage prenait trop de temps, quoi, pour le faire. Donc il a une pièce déjà qui a été affinée, quoi, qui est prête, le lingot prêt à forger. Donc il forge un wakizashi sur tout le dimanche. Donc là, on peut le voir évoluer. Il y a ses collègues qui à côté font du grappage. Les grappages, c'est les morceaux qui sont à l'intérieur du four, qui sont métalliques, mais qui ne peuvent pas être utilisés en tant que tels. Donc ça, on le remet dans un autre petit four. Pour le remonter à température, on le fait refondre pour l'homogénéiser. Donc il y a du spectacle tout le temps. Et après, quand il a fini de forger son sabre, il va mettre l'argile pour faire la trempe sélective.
Sélective.
C'est-à-dire que, si vous voulez, l'argile, c'est pareil, c'est des argiles isolantes voilà, qui ont été travaillées pour leur côté réfractaire. Donc ils mettent ça sur le dos de la lame. Bon, après, il y a tout un rite au niveau du Japon là, pour faire les hamon et compagnie. Le hamon, c'est le dessin de trempe que va donner cette argile sur la lame. Enfin, l'eau sous l'argile. Elle a pour fait que, si vous voulez, quand on va mettre la lame dans le feu, le tranchant qui n'est pas protégé va chauffer beaucoup plus vite que le dos. Parce que lui, il est protégé par l'argile. Et après, par contre, quand on va le mettre dans le liquide refroidissant, quoi, fait l'eau, ça peut être de l'huile pour d'autres lames ou compagnie, quand il va le mettre dedans, le tranchant qui n'est pas protégé va se refroidir beaucoup plus vite que le dos qui, lui, est protégé. Donc il fait les deux, son bien et son contraire. C'est-à-dire qu'il empêche de chauffer quand on met dans le feu, il empêche de refroidir quand on met dans le liquide pour refroidir. Quoi. Ce qui donne beaucoup plus de souplesse sur le dos. Parce que la trempe aura été beaucoup moins dure, donc le tranchant est beaucoup plus dur et le dos est beaucoup plus souple.
Et alors c'est à quel moment qu'on le trempe et que là tout d'un coup il se...
Le dimanche, en principe 5-6 heures il le fait, ouais, 5-6 heures le dimanche soir. Et le côté marrant de l'histoire, c'est qu'il fait ça dans un aquarium.
Ouais.
Donc tout le public peut voir la lame se courber, parce qu'on fait un sabre, quel qu'il soit, que ce soit un sabre de cavalerie, les sabres d'abordage, européens, quoi, les marins, les sabres de marins, toutes les lames courbes sont forgées droites. Elles prennent la courbure au moment de la trempe, quoi. Et donc là, c'est le rapport de beaucoup de gens qui ont vu soit le meilleur forgeron ou d'autres choses, ouais, mais il n'a pas été forgé tordu. Le sabre, il est tordu, et puis il rentre droit, et puis là, on le voit, parce qu'il y a une gestion de la courbe qui se fait dans l'eau. Et là, dans l'aquarium, quand on voit le, il arrive à bouger de 4 cm quand même, la pointe. Mais il y a une gestion, parce qu'après, bon, c'est pareil par rapport aux équilibres, hein. Après, il y a les écoles au niveau karaté, alors là, par contre, ça me dépasse un petit peu, quoi. Mais la courbure, il faut qu'elle soit plus ou moins décalée de la garde, si on peut dire. Ils appellent ça Tsuban en japonais. Mais il peut y avoir un décalage de courbure qui peut se faire sur une 15 ou 20 cm, qui peut être différent d'un sabre à l'autre.
Ouais, ça devient vraiment beaucoup trop imagé pour dans la radio. Il faudra venir pour cette fête, Salon des artisans du feu et de la terre. Donc c'est ce samedi, ce dimanche, donc toute la journée, des démonstrations. Bien sûr, des marchés de créateurs, reconstitution d'un village gaulois, c'est quoi? C'est le sanglier?
Non, c'est tombé à l'eau, ça.
Ah, démonstration de forge, donc katana, épée, couteau, de la céramique, du raku, de la poterie.
Démonstration de damas aussi.
Ouais. Vous êtes combien, là? Vous êtes un sacré paquet, je crois. 60 dans l'enceinte du château de Nègrepelisse, je crois.
75 dans le château et 25 de l'autre. C'est sous les platanes, dans les... comment dire, sur la place du château, quoi.
Et c'est tout gratuit, hein?
C'est tout gratuit.
Il y a...
Sauf la buvette.
À manger sur place, voilà.
Moi, je pense que le point fort, vraiment, cette année, c'est la diversité des artistes qui va y avoir. Parce qu'on ne les a pas tous évoqués. Il y a Willy Berthaud avec ses sculptures en fer qui sont absolument prodigieuses. Il y a Carole qui va venir avec des peintures. Enfin, vraiment, c'est la diversité des artistes.
Et au niveau coutelier, c'est pareil. Là, cette année, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Il va y avoir au niveau visuel, quoi, et compagnie sur la coutellerie. C'est pareil, des mélanges de matières, des damas, des feuilletages de fou. Et il va y avoir de très, très, très belles choses, même à l'extérieur, sous les platanes, quoi. Surtout le côté de marché d'artisans, quoi, qu'il y a dessus, ça s'est renouvelé aussi, il y a de très très belles choses de tous les côtés, quoi.
Et puis il y a de quoi discuter avec de sacrés professionnels. C'est donc toutes les deux journées de samedi et de dimanche, c'est tout gratuit, c'est donc au château de Nègrepelisse, hein, et c'est organisé par l'association
du Feu de la Terre.
Voilà, dont vous faites partie, Thierry Rénal, Adèle Lagarde, un grand merci tous les deux.
Merci à vous.
Et merci à tous, à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera comme d'habitude rediffusé à 18h et à 21h et que vous pouvez aussi réécouter en podcast sur le site de cfmradio.fr. Voici les infos.